Près de 3 ans après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Donald Trump compte négocier la paix uniquement avec son homologue russe Vladimir Poutine. On en parle avec Nicolas Tenzer, il est spécialiste des questions géostratégiques et auteur, entre autres, de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui agite le monde géopolitique mondial ces derniers jours, ces dernières heures. C'est Donald Trump qui s'est dit davantage confiant dans la possibilité d'un accord avec Moscou sur un règlement du conflit en Ukraine. Après une réunion russo-américaine à Riyad, il a déclaré qu'il rencontrerait probablement Vladimir Poutine avant la fin du mois. Alors concrètement, Nicolas Tenzer, que sait-on de ce qu'il s'est passé lors de cette réunion à Riyad entre Russes et Américains ?
Écoutez, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est évidemment uniquement le communiqué et les déclarations de Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, qui ne sont pas véritablement encourageantes, parce qu'on a l'impression qu'une fois de plus, mais c'était déjà le cas avec des déclarations de Trump ou des postes de Trump, des déclarations également de Keith Kellogg, son envoyé sur l'Ukraine, encore plus de Peter Hegtes, le secrétaire à la Défense. Il n'y a aucune considération pour la souveraineté de l'Ukraine, aucune reconnaissance des crimes contre l'humanité, de génocide massif que la Russie a commis, aucune inquiétude pour le sort des populations ukrainiennes qui resteraient dans des territoires occupés, et surtout un accord de cessez-le-feu qui est tout sauf un accord de paix. On sait parfaitement que si aujourd'hui vous aviez un accord dans les termes qui semble se dessiner avec une absence de garantie de sécurité, une reprise des relations commerciales entre les États-Unis et la Russie, une levée des sanctions, une absence totale de d'engagement de la part des États-Unis pour faire respecter le moindre accord de cessez-le-feu, eh bien Poutine en profiterait pour renforcer ses forces, eh bien il attaquerait l'Ukraine d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et bien sûr, un pays européen, membre de l'OTAN, serait la prochaine victime. Donc, en fait, c'est ce que Trump appelle finalement un accord de cessez-le-feu, c'est la préparation de la prochaine guerre.
Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui dénoncé ces discussions. Il a dénoncé cela comme des pourparlers sur l'Ukraine. Sans l'Ukraine, c'est dangereux justement pour le futur du pays qu'il ne soit pas à la table.
Oui, c'est totalement infamant. Disons qu'on aurait même pu concevoir que l'Ukraine ne soit pas à la table s'il y avait une volonté claire des États-Unis de défendre sa souveraineté à tout prix et d'empêcher de la menacer. Là, aujourd'hui, tout ce que disent les responsables américains, c'est une menace claire pour l'Ukraine. On a encore vu au cours de la nuit Trump dire « oui, mais c'est l'Ukraine qui est responsable de la guerre », dire que le président Zelensky avait 4% d'opinion favorable alors qu'il en a plus de 50%, dire que, mais non, en fait, la Russie aurait pu aller beaucoup plus loin dans les attaques contre les villes ukrainiennes, alors que certaines ont été rasées complètement, que les missiles continuent de s'abattre sur les îlots d'habitation, les écoles, les hôpitaux, les centres de jeux, etc. Je dirais tout ceci, à proprement parler, infâme et répugnant. Donc, je pense que la colère qui s'est bien exprimée de la part du président Zelensky est bien au-delà, de l'absence, de l'Ukraine à table de négociation, d'ailleurs, qui n'existe pas encore de manière formelle, mais un lâchage complet par les alliés d'antan, par le grand allié d'antan, que sont les États-Unis, de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous savez, on avait beaucoup de reproches qu'on pouvait faire aux États-Unis, on pouvait le reprocher, notamment à l'époque de George W. Bush, une intervention inopportune en Irak, on pouvait reprocher l'effet d'ailleurs aussi souvent, l'abstention d'Obama en 2013 après les attaques chimiques du régime Assad contre la Ghouta, contre l'intervention russe en Syrie à partir de 2015-2016, l'aide beaucoup trop faible du président Biden à l'Ukraine, qui est toujours resté entre deux. Là, on a un retournement complet d'alliance, c'est-à-dire qu'on a des États-Unis qui, en fait, s'allient, je devrais dire d'une certaine manière, s'acoquinent, compte tenu des liens anciens de Trump avec une partie de la mafia russe, sa coquine avec le pire ennemi.
Alors, dans ce que vous dites, on a l'impression qu'on assiste vraiment à un tournant de cette guerre. C'est le cas ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un tournant. Alors, soyons clairs, c'est un tournant dans l'alliance. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre? Oui, dans la mesure où les États-Unis pourraient se retirer complètement, pourraient, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, ne plus fournir d'armes du tout. Et de donc, la charge de défendre l'Ukraine sera exclusivement européenne. Donc ça, c'est un tournant. De là à dire, ça y est, le sort en est jeté, l'Ukraine va disparaître, non. D'abord parce que, malgré tout, l'Ukraine continue de se défendre. Je rappellerai aussi que la Russie, l'année dernière, en 2024, a conquis 3865 km² exactement de terres ukrainiennes, c'est 0,6% de l'Ukraine. Que la Russie n'est même pas capable de repousser les armées ukrainiennes qui sont entrées dans la région russe de Koursk. Que les Ukrainiens mettent en place de manière de plus en plus performante des drones capables d'attaquer des raffineries, des dépôts de munitions en Russie même. Ils sont en train de fabriquer aussi des missiles. L'Europe, je le rappelle aussi toujours, a donné finalement beaucoup plus d'armes à l'Ukraine que les États-Unis. Donc, encore une fois, ne soyons pas défaitistes non plus. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un mauvais accord, d'ailleurs que l'Ukraine donc va rejeter, que c'est la fin de la guerre et la fin de la résistance ukrainienne.
Vous avez mentionné l'Europe, Nicolas Tenzer. On a assisté à une scène un peu surréaliste, un sommet à la va-vite organisé par Emmanuel Macron à Paris où seulement 7 pays européens étaient présents. On a l'impression que l'Europe est complètement dépassée par ces déclarations américaines. Où se trouve l'Union européenne ? Est-elle justement complètement dépassée ?
Alors, elle n'est pas complètement dépassée, même s'il y a, c'est vrai, des divisions au sein de l'Union européenne. Là, vous avez quand même deux rencontres, hein, une lundi, une mercredi. Mercredi étant complémentaire de celle de lundi. Vous avez quand même des déclarations assez claires de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui va mobiliser beaucoup plus de financement, y compris d'ailleurs des fonds qui étaient, disons, des reliquats de fonds du plan de relance presque vide. On va avoir sans doute un grand emprunt européen, on va lever un certain nombre de restrictions au financement par les banques de l'industrie d'armement. Donc aujourd'hui, on avance. Alors nous avançons beaucoup trop lentement, je suis le premier à le constater et à le déplorer. Nous aurions dû avancer beaucoup plus vite il y a plus longtemps. En même temps, dire que l'Europe est vraiment aux abonnés absents, non. Vous avez des divergences, notamment par exemple sur la sécurisation de l'Ukraine, quel type d'envoi de troupes, etc. Maintenant, vous avez la plupart des pays qui, sur le principe, avec ces divergences, acceptent le principe. C'est quand même une révolution. Donc, nous avançons trop lentement. L'Europe n'est pas morte.
Oui, pour compléter ce que vous disiez, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a annoncé en ce mercredi une réorientation de 93 milliards d'euros vers la défense européenne, ce qui est une somme assez conséquente. Nicolas Tenzer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique. À bientôt.
À bientôt, merci.